Bonjour à tous, bienvenue sur Distill News épisode 1. Moi, c'est Frédéric Roginska, je suis distillateur, producteur et passionné de mixologie. Je vous propose avec ce podcast mon regard sur l'actualité cocktail, bar et spiritueux. Évidemment, si ça n'est pas déjà fait, pensez à vous inscrire à la newsletter sur distill.news. Et sur ce, c'est parti. Alors, ce que je vous propose pour ce premier épisode, ça va être de simplement passer en revue quelques-unes des infos qui ont été traitées dans le tout premier numéro, publié il y a maintenant une semaine, le 8 décembre. Donc parmi les actus alors plus ou moins chaudes que j'ai traitées, il y en a quelques-unes qui m'ont particulièrement intéressé, et notamment la distillerie Foundry Distilling Company, basée dans l'Iowa aux USA, qui propose un programme assez unique de whisky sur mesure. À savoir, le principe, c'est que vous pouvez concevoir vous-même votre recette, donc à savoir le fameux mash bill, le fait de pouvoir mettre X% de maïs, X% de seigle ou de malt dans votre recette, et ensuite la distillerie la réalise avec vous. Une fois distillé, donc votre whisky est réparti dans deux fûts, un premier de 5 gallons, donc c'est à peu près 19 litres, lequel est vieilli 6 à 9 mois, et ensuite on a un deuxième fût, lui plus grand de 30 gallons, c'est à peu près 113 litres, et lui, celui-ci, donc il ambitionne plutôt les 2 à 3 ans d'âge. Donc tout au long du processus, vous allez avoir l'opportunité 4 fois par an de goûter l'évolution de vos fûts, et donc selon les résultats, choisir dans cette fourchette de 2 à 3 ans. Quand vous voulez les sortir, et au final, vous devriez obtenir 180 à 200 bouteilles de votre propre whisky, le tout avec une étiquette personnalisée, et vous récupérez évidemment le fût, les fûts même, avec vos personnalisations dessus. Donc voilà, c'est un projet que je trouve assez cool, qui doit pas être donné. Alors je vous avoue, je connais pas les prix, mais il y a matière à réfléchir. Et après, une petite question que je pourrais me poser, c'est comment ils gèrent exactement les lots qu'ils produisent, puisque là on est sur deux fûts, mais j'imagine que vu les bécanes qu'ils ont, ils doivent probablement distiller davantage, ils doivent avoir un rendement quand même un peu plus important. Donc voilà, peut-être que derrière ils font une espèce de Infinity Tank, dans lesquels ils vont mettre un peu toutes les recettes de leurs clients pour faire une espèce de blend monumental. Voilà. Et dernier petit point, donc je parlais de 2 à 3 ans de vieillissement sur le plus grand des deux fûts, ou même 6 à 9 mois sur le petit. Une des particularités donc à noter, c'est qu'aux États-Unis, il n'est pas obligatoire de vieillir son eau de vie de céréales 3 ans minimum pour prétendre à l'appellation whisky, comme ça peut être le cas en France et en Europe plus largement. Ensuite, si on reste toujours dans le domaine du whisky, il y a une interrogation que j'ai vue passer, alors je crois que c'est dans Vinepair, que j'ai trouvé plutôt pas mal, c'était de s'interroger en fait sur les brasseurs. Est-ce qu'ils sont finalement les plus à même de faire de meilleurs whisky artisanaux que les distillateurs de métier? Et je trouve la question assez intéressante dans la mesure où on a tendance à mettre beaucoup en avant dans les spiritueux la phase de distillation, mais au final, tout ce qui est palette aromatique ne se forme pas au cours de la distillation, mais bien au cours de la fermentation. Et c'est là que être brasseur, faites-vous finalement un spécialiste de cette question de la fermentation, là où les distillateurs vont faire un peu tout et vont peut-être être moins spécialisés là-dedans. Autre chose, c'est que je pense aussi que, bien qu'on romantise un peu tout le côté distillation, ça reste finalement une opération plutôt technique qui s'apprend relativement rapidement, là où je pense que la fermentation requiert beaucoup plus de subtilité. Donc voilà, donc une réflexion que je trouve plutôt intéressante et à laquelle personnellement j'aurais tendance à adhérer. Et puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans le milieu des crafts, des bières craft, on a quand même des gens qui sont beaucoup plus moins conservateurs, je dirais, moins traditionnalistes, qui ont tendance à plus innover, et je pense que c'est quelque chose qui peut pas mal apporter à la catégorie whisky. À suivre en tout cas. Et enfin, un troisième sujet qui m'avait intéressé dans la newsletter. Alors, si vous ne l'avez pas encore lu, elle est disponible sur le site, hein, distillnews.com. Et puis, vous pouvez vous abonner évidemment pour avoir les suivantes et pouvoir lire également toutes les autres infos que j'ai mis dedans. Mais là, si je dois tirer une troisième info plutôt intéressante, c'est. Alors, c'est pas lié directement au spiritueux, mais je pense que ça peut s'y appliquer. C'est en fait un blog post d'un blogueur qui s'appelle Kent Hendricks, qui est assez long, assez recherché sur une multitude d'expériences sur les blind testing de vin. Et en fait, le point de départ, et la question, c'est de savoir est-ce qu'un vin cher est-il forcément meilleur au goût? Et le point de départ, c'est en fait visiblement le cas qui est arrivé dans un grand restaurant où un pinot noir à 18$ a été interverti avec un Rothschild 89, un mouton Rothschild 89 à 2000$. Et le truc, c'est que l'attablé qui avait commandé ce Rothschild a tout simplement, croyant déguster un vin à 2000$, a visiblement beaucoup apprécié l'expérience. Et voilà. Et du coup, ça interroge sur le ressort psychologique évident qui apparaît là, c'est que connaître le prix d'une bouteille influe sur la perception que vous avez même du goût de la bouteille. Donc là, évidemment, si on est plus sur une réflexion scientifique, là où les expériences sont intéressantes, c'était de voir est-ce que tout ça peut se répéter sur des centaines, voire des milliers de dégustations à l'aveugle. Et ce qui s'est avéré, c'est qu'effectivement, dès lors qu'on n'introduisait pas l'élément prix dans la dégustation, que c'était vraiment une dégustation à l'aveugle, il s'est avéré que les groupes tests tendaient même à préférer majoritairement les bouteilles les moins chères. Mais dès lors que sur d'autres groupes tests, on introduisait une notion de prix, les résultats avaient tendance à basculer vers le vin le plus cher. Donc tout ça évidemment peut, je pense, s'appliquer aux spiritueux, comme les whisky ou les rhums, où les décomptes d'âge, je pense, influent énormément sur la perception de beaucoup de gens. On aura tendance à croire que le whisky ou le rhum le plus âgé est le meilleur, que le prix également est un facteur, un gage de qualité. Idem pour la réputation de telle ou telle distillerie ou telle marque. Mais au final, l'équation plus vieux, plus cher égale meilleur n'a rien d'une vérité absolue et c'est évidemment tant mieux. Et si je pousse un peu plus le raisonnement, j'aurais tendance à croire que si le whisky américain et j'ai le sentiment sous-coté en France, c'est grandement sur ce genre de questions de perception face à des whiskies écossais qui, par nature, sont vieillis plus longtemps dans des fûts usagés versus des fûts neufs aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour ce premier podcast, donc premier épisode sur la première newsletter. J'espère que ça vous a intéressé. Merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout. Si c'est pas déjà fait, je rappelle, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur distillnews.com. C'est absolument gratuit et l'ambition, c'est d'envoyer un peu une compilation des actualités de la semaine avec mon analyse chaque semaine. Voilà. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Portez-vous bien et à très vite.